Notre invité aujourd'hui est Jean-Pierre Robin. Il est auteur de différents ouvrages. Il a été inspecteur à l'éducation nationale. Il a travaillé aussi auprès des ministres de l'éducation nationale. Jean-Pierre Robin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle a été votre fonction pendant une trentaine d'années ?
Mon parcours ?
Oui.
Écoutez, moi j'ai commencé à enseigner en Algérie pendant quelques années, juste après l'indépendance, en lycée et en collège. Et puis ensuite, j'ai enseigné, je suis devenu universitaire, j'ai enseigné la mécanique des solides, j'ai eu une thèse en mécanique, et j'ai enseigné 15 ans à l'université de Grenoble, avant de passer une thèse de lettres et sciences humaines avec Philippe Mérieux et d'enseigner ensuite à l'UFM de Lyon.
Vous avez écrit donc un dernier ouvrage dont on parle beaucoup, qui s'appelle « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école donc aux éditions Hermann », un livre qui a beaucoup fait parler. Pourquoi aussi tard pour prendre la plume ?
Bah écoutez, moi je suis surtout, j'ai été inspecteur général de l'éducation nationale pendant 15 ans et pendant cette partie de ma carrière, j'ai écrit un rapport qui est devenu assez célèbre, le rapport Aubin, sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires qui était en 2004 un premier signal d'alarme sur la montée de l'extrémisme religieux, en particulier de l'islamisme dans l'école. Bon, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, j'ai éprouvé le besoin d'alerter de nouveau l'opinion sur cette question parce que les choses n'ont fait qu'empirer, aggraver, s'élargir, se répandre. Et aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ans, on dispose d'études un peu sérieuses, scientifiques notamment, sur cette évolution qui est préoccupante, inquiétante d'une partie de la jeunesse musulmane.
Mais en fait, le signal de départ de cette prise, entre guillemets, de conscience, c'est après les attentats de Paris, lors des mines de silence qui n'ont pas été respectées, c'est ça qui a fait un peu réveiller les gens.
Oui, il y a eu, notre rapport de 2004, nous étions 10 inspecteurs généraux à l'écrire et à enquêter sur le terrain, bien sûr. Ce rapport a été enterré par les politiques de gauche et les hommes politiques de gauche comme de droite pendant jusqu'aux attentats de 2015 où il était en quelque sorte exhumé par Manuel Valls, Premier ministre, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Et là, il y a eu une prise de conscience que les points sur lesquels nous alertions le ministre ou les ministres de l'époque, n'avaient pas beaucoup évolué. Enfin, c'était même aggravé. Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, notamment à partir des moments de recueillement qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, qui ont été troublés par des milliers d'incidents dans les établissements scolaires, de la même manière que les moments de recueillement à propos des attentats de New York et de Madrid avaient été perturbés par des élèves à l'époque où nous avions enquêté.
Alors, vous parlez dans votre livre d'un déni peut-être des politiques, évidemment, déni aussi des directeurs des différents rectorats. Pourquoi c'est un problème qui est compliqué à gérer, qui est explosif? Pourquoi il y a ce déni-là, en clair?
Alors, il y a une réaction de déni que nous avions rencontré déjà en 2004 lors de la remise de notre rapport. Il y a un certain nombre de personnes qui disent non, ce que vous dites n'est pas vrai. Voilà, tout simplement, c'est faux, c'est exagéré. Bon, il y a eu des attitudes comme cela, hein, qu'on peut rapprocher d'ailleurs un peu des attitudes complotistes, c'est-à-dire des gens qui sont hors de la réalité, qui refusent de la voir parce que cette réalité est inquiétante, tout simplement. Voire désespérante, si on est pessimiste. Et donc, il y a cette première réaction-là. Mais ce n'est pas la seule réaction. il y a des réactions de lâcheté. Hein. C'est un problème compliqué. Bon, allez, on va le transmettre à la génération suivante. Hein. On pousse la poussière sur le tapis. C'est pas un déni, c'est un manque de courage de traiter le problème. Puis une troisième attitude aussi qui contribue à laisser l'islam pénétrer l'école, c'est les idéologies. Il y a un certain nombre d'idéologies, notamment à l'extrême gauche, qui sont favorables à la pénétration de l'islamisme, qui sont des alliés assumés ou objectifs des islamistes.
Vous parlez également de clientélisme de certains élus qui, par clientélisme politique, laissent l'islamisme rentrer dans l'école.
Oui, c'est un phénomène qui maintenant est bien connu, qui a été dénoncé ou observé dans plusieurs essais récents, hein, mais qui ne touche pas directement l'école ou indirectement. Donc c'est la position clientéliste, oui, d'un certain nombre d'élus de gauche et de droite qui, pour acheter la paix sociale dans les quartiers, embauchent des travailleurs sociaux ou des collaborateurs qui, espèrent-ils, vont leur apporter la paix dans ces quartiers et qui, en fait, sont des islamistes.
Alors, Jean-Pierre Robin, on rappelle votre livre, ça s'appelle « Comment a-t-on laissé l'islamisme pénétrer dans l'école ?» Alors, ce qui est assez inquiétant dans votre ouvrage, c'est que vous parlez évidemment des lycées, vous parlez du primaire, mais vous dites aussi que dans les maternelles, il y a aussi des actes d'islamisme pour les tout-petits.
Oui, dans les maternelles. Alors, dans l'école primaire, si vous voulez, c'est souvent les parents qui sont à l'origine des incidents. Hein, quelquefois les élèves, mais souvent ce sont les parents. Et oui, il arrive que dans l'école maternelle, déjà, on ait des incidents de revendications, notamment de la part de parents salafistes. Par exemple, le refus d'écouter de la musique, de dessiner un personnage, dessiner un être humain.
Vous parlez également, Jean-Pierre Robin, dans votre livre, du problème, on va dire, alimentaire. Il y a certaines cantines où on sépare les élèves, etc. Ça aussi, c'est sous le, je dirais, sous l'aide des parents et de services sociaux qui demandent à avoir des repas séparés.
Alors oui, ça c'est un problème récurrent qu'on a observé depuis longtemps déjà. Et aujourd'hui on a des études d'ailleurs un peu objectives. Par exemple, le fameux sondage de l'IFOP de 2018 pour le Comité National d'Action Laïque, qui auprès d'un échantillon représentatif des enseignants de l'enseignement public, qui montre que 30% des enseignants français ont observé ce genre d'incident lié à la restauration et à l'alimentation. Et on a là, oui, je dirais une source récurrente d'incidents avec des choses parfois étonnantes. Mais pour ceux qui connaissent bien l'institution, finalement, pas si rare que ça, comme ces plats qui sont sans porc et qui sont étiquetés à la cantine. Voilà, plats pour musulmans, réservés aux musulmans. Avec cet incident que je rapporte d'une documentaliste d'un collège qui se trouve devant des tomates pour musulmans qu'elle cherche à prendre parce qu'elle veut pas aller juive et elle veut pas manger du porc. Et on lui interdit, le personnel de cantine lui interdit de prendre ce mets qui est réservé aux musulmans.
Alors, vous dites, Jean-Pierre Robin, qu'il y a effectivement différents cas, vous les dites dans votre livre, de cas d'islamisme, mais vous dites aussi, et c'est ça qui est important, que l'éducation nationale est un peu dépassée par les événements, les profs ne savent pas comment réagir, certains proviseurs préfèrent désavouer les enseignants par rapport aux parents. D'où vient cette peur, d'où vient cette frilosité?
Ben, elle a une double origine, si vous voulez. Il y a d'abord une culture du secret dans notre institution qui est ancienne, hein, qui a fait que pendant longtemps, par exemple, on a dissimulé les cas de pédophilie dans le premier degré. Et on réglait Voilà, on lavait le linge sale en famille, comme on disait. On déplaçait l'instituteur, simplement. Un peu comme ce qu'on voit apparaître rétrospectivement dans l'Église catholique. Ça, c'est voilà, cette culture du secret touche, par exemple, pendant longtemps a touché cette question et touche toujours aujourd'hui, par exemple, un phénomène absolument préoccupant qui est le cyberharcèlement entre les adolescents et qui peut conduire à des cas graves de suicide, par exemple. Pas mal de tentatives de suicide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la longue histoire du combat scolaire avec l'Église catholique autour de la laïcité, dont la dernière bataille, je le rappelle, en 1984, a été perdue par l'école publique et par le camp laïque. Et ça, ça a laissé des traces qui font que les sujets qui touchent aux religions sont des sujets un peu tabous, donc qu'on craint et qu'on ne sait pas bien gérer.
Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste. Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse.
Jean-Pierre Aubin, qui est, on le rappelle, l'auteur du livre aux éditions Hermann, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer dans l'école ». Jean-Pierre Aubin, juste une petite parenthèse, parce qu'il y a évidemment l'islamisme, mais aussi le judaïsme. Avez-vous une théorie particulière sur l'enseignement pour les enfants juifs dans les écoles ?
Les enfants juifs dans les écoles publiques sont des enfants comme les autres, sauf que ils ont été depuis les années 90 l'objet d'un certain nombre de d'attaques, de violences verbales et physiques de la part d'autres élèves et d'origine maghrébine, et que cela a conduit à la déscolarisation des deux tiers des enfants juifs en âge d'être scolarisés aujourd'hui de l'école publique. Un tiers se retrouve en gros dans les écoles musulmanes, dans les écoles juives, pardon, et un tiers se retrouve dans les écoles catholiques privées. Et donc voilà, c'est la réelle singularité, triste réalité des enfants juifs aujourd'hui en âge d'être scolarisés en France. Par ailleurs, bon, ils sont soumis à la loi commune, à la loi de l'école laïque. Et par exemple, concernant les fêtes religieuses, ils ont le droit de s'absenter, comme les élèves musulmans, par exemple, ou bouddhistes qui souhaitent faire un culte ce jour-là ou respecter une tradition.
Alors, il y a un sondage qui est sorti ce matin, commandé notamment par l'Union des étudiants juifs de France, qui rapporte que 11% des élèves affirment que les profs ont des difficultés à enseigner la Shoah. Vous, oui. C'est un chiffre qui vous inquiète, ou en tout cas qui ne vous...
J'ai examiné ce sondage, oui, et c'est pire que ce que vous dites. C'est 11%, d'après mes souvenirs, 11% qui n'ont pas pu enseigner la Shoah. Les incidents sont bien plus nombreux.
Ça, c'est des choses que vous avez connues à votre époque. C'était déjà un élément.
Ah ben oui, bien sûr. C'est l'un des sujets, je dirais depuis longtemps, un des thèmes importants. C'est pas le plus important, mais un des thèmes importants des incidents. Lié aux atteintes à la laïcité, bien sûr.
C'est quoi le plus important, alors ?
Ben, le plus important, par exemple, celui qu'on examinait tout à l'heure, les incidents liés à l'alimentation, c'est 30% des élèves, hein, c'est 30% des réponses. Donc là, on est sur des proportions moindres, parce que les professeurs d'histoire, aujourd'hui, sont alerté sur ce sujet. Il y a eu des formations à l'enseignement de cette question.
Alors, est-ce que les formations sont adéquates ? Parce qu'on a l'impression que les formations, c'est une journée ou deux, et les réponses à la fin des formations sont toujours aussi présentes.
Ben écoutez, c'est un des points importants de ce que je développe dans mon livre, en particulier dans les deux derniers chapitres sur les orientations à prendre pour s'opposer à la montée de l'islamisme. Un des points importants que je développe, c'est la question de la formation. C'est vrai que le constat aujourd'hui est accablant, hein, puisque on a 25% des étudiants futurs professeurs qui, pendant leur formation, ont suivi un enseignement ou une formation à la laïcité. Et sur ces 25%, la moitié disent qu'elle était de mauvaise qualité. Quant à la formation continue, c'est-à-dire à l'ensemble des professeurs aujourd'hui en fonction dans l'enseignement public, 6% ont reçu une formation à la laïcité. C'est dire que effectivement, on comprend le désarroi, les difficultés des enseignants ou de certains enseignants devant les contestations dont leurs cours sont l'objet pour y faire face.
Alors, Jean-Pierre Aubin, dans votre livre, vous faites évidemment un constat, vous racontez quelques anecdotes sur des situations. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a une propagation ou une régression de cette pénétration de l'islam ?
Ben non, il n'y a pas de miracle, hein, moi je n'y crois pas. Il y a une action qui a été mis en place, enfin un dispositif plutôt, qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer, qui est arrivé, qui fonctionne, avec à la tête de dispositif en haut de la pyramide, le Conseil des sages de la laïcité. Mais c'est pas... je veux dire que ce qui se passe sur le terrain n'a pas été stoppé. Simplement, on connaît mieux le phénomène, on le prend en considération. mais il reste encore très insuffisant pour stopper cette dynamique, qui est une véritable dynamique, hein, qui ne concerne pas que la France, qui concerne, je dirais, l'ensemble des pays d'immigration et, au premier chef, les pays musulmans. Donc, faut pas penser que quelques mesures, aussi utiles soient-elles, puissent, d'une part, à court terme, mettre fin à ce phénomène, et, d'autre part, puissent mettre fin à ce phénomène en France. L'islamisme est une idéologie, et c'est comme le coronavirus, ça ne connaît pas les frontières.
D'accord.
Et donc cette lutte contre l'islamisme doit être engagée partout, de manière coordonnée, et au premier chef, elle est engagée dans les pays musulmans qui sont les premiers à souffrir de l'islamisme.
Alors Jean-Pierre Aubin, justement dans votre livre, vous donnez des pistes pour essayer de faire régresser ces actes et ces faits. Qu'est-ce que vous vous dites, en fait, il faut essayer d'intégrer les enfants immigrés dans des écoles un peu plus huppées, un peu plus proches des villes, des cités. C'est la mixité, c'est le vivre ensemble que vous promenez.
Mais c'est-à-dire que, raisonnons par l'absurde, peut-on lutter contre l'islamisme si on laisse se constituer et se développer les ghettos musulmans, où évidemment les islamistes sont comme poissons dans l'eau. Donc il n'y a pas de possibilité d'un combat victorieux contre l'islamisme si on se laisse se développer la ghettoisation. Et pour ce qui concerne l'école, les établissements ghettos. Donc il faut absolument réintroduire de la mixité sociale, qui en même temps est une mixité scolaire, qui est une mixité
religieuse, ethnique. Mais ça marche pas, on l'a vu, ça marche pas.
Si l'on veut raisonnablement lutter contre l'islamisme.
Mais on a essayé, on a vu que ça marchait pas, puisque les écoles...
Comment ça on a essayé ?
Il y a des écoles où on a mis des différentes une mixité sociale et il y a eu toujours des islamistes qui sont entrés, il y a eu toujours des actes qui se sont produits.
Non, mais je ne suis pas sûr qu'on ait essayé. Hein, c'est-à-dire que la mixité, l'intégration des populations d'origine immigrée maghrébine en France. A subi un coup d'arrêt depuis quelques temps. Elle continue à fonctionner d'ailleurs, mais moins bien qu'auparavant. Ce qui est certain, c'est le constat de sociologues, politologues comme Jérôme Fourquet par exemple, c'est l'évolution de la société française vers une archipélisation, c'est-à-dire des communautés, des groupes sociaux, ethniques, culturels, religieux qui se séparent. Bon, je ne pense pas que dans ce cadre-là, il puisse y avoir une solution au problème que l'on examine. Voilà. Je suis même sûr qu'il n'y en a pas.
D'accord. Alors, Jean-Pierre Aubin, ce livre, vous l'avez écrit. Qu'est-ce que vous essayez de créer ? C'est un électrochoc, c'est d'informer les gens pour leur dire ce qui se passe vraiment. C'est quoi l'idée du livre, en l'occurrence ?
Ben, si vous voulez, moi j'ai envie de transmettre aux générations qui viennent, hein, j'ai 78 ans, à la fois ma connaissance et puis ce cri d'alerte sur la société de demain. Si l'on ne réagit pas, on se prépare à une société hautement conflictuelle, qui est déjà là d'ailleurs dans un certain nombre de quartiers, mais ça ne risque pas de s'améliorer. Donc, c'est un cri vis-à-vis de, notamment des hommes politiques, mais de l'opinion en général, pour réagir à cette situation.
Vous êtes optimiste
extrêmement
pour la suite ?
Préoccupante.
Vous êtes optimiste pour la suite ?
Je suis comme Marcel Gauchet, pessimiste du court terme et optimiste du long terme. Marcel Gauchet, qui est philosophe, un anthropologue, un historien des religions, nous dit que voilà, c'est un combat, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce qu'il appelle la seconde mondialisation, après la première qui voilà, a été entamée par les grandes découvertes, entre guillemets, de l'Amérique, de l'Asie, etc., au 15e, au 16e siècle, cette seconde mondialisation, c'est la mondialisation des idées. C'est-à-dire la pénétration des idées démocratiques dans un monde qui n'y était absolument pas préparé, le monde arabo-musulman, en l'occurrence. Et il dit ceci, ce combat des Lumières qui a duré chez nous 5 siècles ne fait que débuter dans le monde arabo-musulman. Et voilà, c'est un combat qui va durer plusieurs générations. Qui va faire beaucoup de victimes et qui a déjà commencé. Et les plus grands nombres de victimes sont dans les pays musulmans, bien entendu, qui sont en première ligne. Mais sur le long terme, ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner parce que ils sont dans une incohérence à propos de quelque chose d'essentiel pour la conduite du monde, qui est l'usage de la raison. Ils acceptent l'usage de la raison dans le domaine scientifique et technologique. Ouais. Ils le refusent dans le domaine social et politique. Et voilà, la raison finira par triompher. Ils veulent, je donne ici la parole de Marcel Gauchet, les mots de Marcel Gauchet dans son séminaire, ils veulent la science et la technique sans la démocratie, ils auront forcément au bout du compte la science, la technique et la démocratie. La raison ne se divise pas.
Jean-Pierre Aubin, vous êtes étonné par l'accueil plutôt intéressé des médias. Vous étiez interviewé dans différents médias. C'est quelque chose qui vous a étonné ?
J'ai été étonné effectivement par la couverture médiatique qui a débuté avec les 13 pages dans l'hebdomadaire Le Point, et la couverture auquel je ne m'attendais pas, oui. Voilà. Et les médias pour l'instant sont extrêmement favorables au livre, notamment les médias qui l'ont lu, parce que il y a aussi des médias qui retransmettent, vous voyez, l'information d'autres médias, etc. Oui. Donc je crois que c'est un livre qui mérite d'être lu dans son argumentation générale et dans l'ensemble des choses qui sont développées. Il faut pas se focaliser sur les exemples, les anecdotes qui sont là, des illustrations.
Elles sont nombreuses.
Au profit d'une argumentation qui se fonde aujourd'hui, comme je vous le disais, sur des études scientifiques, sur des sondages sérieux et sur une véritable préoccupation fondée sur des faits qui ne sont pas contestables.
Jean-Pierre Aubin, comment a-t-on laissé l'islamisme pénétrer l'école ? C'est aux éditions Hermann. Je vous conseille de lire ce livre car il n'est pas très gros, d'une part. Il est bien documenté et il y a plein d'infos et des anecdotes des fois qui font froid dans le dos. Merci beaucoup Jean-Pierre Aubin.
Merci.
À très bientôt. Bonne journée.
Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.